Moi, c'est André de Mbujima, Okata Oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Capi, la fréquence de la paix, qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. La question de fixation des frais pour l'année académique 2019-2020 continue de diviser les étudiants et les responsables des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Après les événements survenus à l'Université de Kinshasa, c'était au tour de l'Institut facultaire des sciences de l'information et communication, IFASIC, de suspendre les activités après les manifestations des étudiants contre l'augmentation des frais académiques. Une manifestation similaire a été enregistrée la semaine dernière à l'Institut supérieur du commerce de Kinshasa. Selon vous, que faut-il pour harmoniser les frais académiques? 081-890-4969. 081-890-4969. C'est le numéro d'appel pour nous joindre en direct. Vous pouvez aussi commenter les sujets sur la page Facebook des paroles aux auditeurs fidèles. Les auditeurs, merci d'être avec nous. La technique est assurée par Jean-Claude Ntiala. Nico Kalambay est à la réalisation et Pierrot et la Mégis, c'est un réel plaisir de vous présenter ces magazines. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégis.
Et pour en parler, nous recevons dans ce studio Monsieur Thomas Luaga Losonjola, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot et la Magie.
Merci d'avoir accepté notre invitation. La rentrée académique 2019-2020 a été assez mouvementée sur la question des frais.
Oui, la rentrée était mouvementée dans quelques établissements. Ce qu'il faut dire au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, nous gérons plus de 500 établissements publics, 500 établissements privés. Donc on est autour de 1000 établissements sur l'ensemble de la République. Mais les agitations qu'on a connues, c'était moins d'une dizaine d'établissements.
Et quand on regarde, tout a tourné autour des frais, alors que l'instruction académique que vous aviez mise à la disposition des responsables des institutions d'enseignement supérieur universitaire décrivait clairement cette question des frais.
Oui, tout à fait. La première des choses, il y a eu un malentendu au départ. Et je me suis rendu compte que les anciennes instructions académiques n'étaient pas mises à la disposition du grand public. Donc, lorsque nous sommes arrivés, nous avons pris cette instruction 021 et que ça a circulé dans les réseaux sociaux, les premiers malentendus. Beaucoup de personnes ont cru comprendre que les seuls frais qu'ils devraient payer cette année, c'est ce qui est dit dans l'instruction 021, que ce que nous avons fixé. Alors que l'instruction laissait la latitude à chaque établissement pour définir les frais dont ils auront besoin pour leur fonctionnement. Donc ça, c'était le premier malentendu qu'on a réglé. Et puis après, lorsque l'instruction a été bien comprise, les établissements se sont mis à négocier. Si vous me permettez une petite parenthèse, parce que vous avez parlé de ça au départ, l'ISC. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ISC cette semaine? À l'ISC, les étudiants étaient en cours et un groupe de jeunes sont arrivés pour dire...
Non étudiants?
Non, c'est des étudiants mais pas de l'ISC. On ne sait pas exactement d'où ils viennent. Ces étudiants-là, ces gens-là sont venus et ils ont annoncé dans les amphithéâtres qu'on vient d'augmenter les frais académiques. Et ça a mis tout le monde en ébullition et les étudiants sont sortis. C'est ce qui s'est passé à l'ISC.
En réalité, c'est pas une manifestation liée aux frais.
Non,
aux frais.
Parce qu'à l'ISC, justement, ils sont en pleine négociation. Ils n'ont pas encore fixé les frais. Donc, les frais ne pouvaient pas augmenter si les négociations n'ont pas encore abouti. Ils sont en plein processus. On voit très bien que c'est de la manipulation politique.
Alors, maintenant, au niveau de l'instruction, pourriez-vous clarifier c'est quoi exactement le frais d'études et c'est quoi le frais connexe? C'est ça, ces niveaux-là où il y a eu exactement les incompréhensions.
Oui, tout à fait. En fait, dans l'instruction académique, il y a deux étapes. La première étape, ce sont les frais fixés par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire que je suis. Après, il y a une deuxième étape, disons, la première partie, pour régler définitivement la question de l'augmentation. Parce que ça a circulé partout, les nouveaux ministres ont augmenté les frais académiques. C'est faux et archi faux, je peux vous le démontrer très rapidement. En 2015-2016, c'était mon grand frère Théophile Mbemba, qui était ministre de l'enseignement supérieur universitaire, il a fixé les frais d'études à 93 300 francs congolais. Souvenons-nous qu'en 2015, 93 300 francs congolais équivalaient à 100 dollars. Après, en 2017-2018, mon prédécesseur Steve Mbikai a fixé le même frais à 100 dollars américains. Et 2018-2019, mon toujours Steve Mbikai, il a fixé le même frais à 160 000 francs congolais. 2018, 160 000 francs congolais, 500, c'est l'équivalent de 100 dollars. Donc, on voit bien que 2017-2018, c'est toujours autour de 100 dollars. Moi, j'arrive 2019-2020, je fixe à 164 700 francs congolais. C'est l'équivalent des 100 dollars américains au taux budgétaire. Donc, rien n'a augmenté depuis 5 ans. Ça, c'est la première partie. C'est ce que le ministre définit. Maintenant, nous donnons la latitude du fait que les niveaux de vie n'étant pas le même à Bouéndé et à Lubumbashi, à Mahagi et à Kananga, ou à Kolwezi et à Lubefu, nous avons laissé la latitude à toutes les institutions publiques de pouvoir négocier en interne les frais supplémentaires dont ils auront besoin pour fonctionner. C'est ce qu'on appelle le frais connexe. Et cet exercice a commencé partout. Les gens ont négocié. La plupart des institutions, les négociations ont abouti. Je peux vous donner des exemples. À l'université de Lubumbashi, ils se sont mis ensemble. Ils ont défini pour cette année 495 000 francs congolais.
En dehors de 164
000. Non. Tout compris.
Ah, ok.
Tout compris, c'est tout compris.
Y compris le frais d'études et le frais connexe, ça va dans 400 000.
Dans 400 000, voilà. C'est l'ensemble. À l'UNIKIS, l'université de Kisangani, ils ont défini eux-mêmes 357 000 francs congolais pour cette année. À l'UPN, c'est 490 000 francs congolais. Et à l'UNIKIN, puisqu'on reviendra là-dessus, l'UNIKIN, après 3 jours de négociations, qui ont négocié? Dans chaque institution, il y a 5 partenaires. On l'appelle les conseils des partenaires. Vous avez les comités de gestion de l'établissement. Vous avez l'association des professeurs, l'association des scientifiques, le personnel administratif et technique, et enfin la coordination étudiantine. Voilà les 5 groupes qui négocient dans chaque institution. Donc, pour revenir à l'UNIKIN, pendant 3 jours, ils ont négocié et ils ont eu un compromis sur les montants de 490 500 francs congolais. Cet accord a été obtenu le 19 décembre. Le 19 décembre, tous les partenaires de l'UNIKIN se sont mis d'accord, ils ont signé cet accord. Voilà la différence entre le frais défini par les ministres, les frais d'études et les frais connexes. Donc tout ça, ça a été négocié et ça a donné ces montants-là.
Et pourquoi on est arrivé à ce qui est arrivé à l'université de Kinshasa? Comment expliquer que les étudiants manifestent qu'il y ait cette incompréhension et que les gens disent qu'on a augmenté alors que vous estimez que l'année passée, on n'avait pas augmenté en réalité?
Non, voici ce qui s'est exactement passé. Je vous ai dit, mon prédécesseur Steve Mbikai, l'année dernière, a fixé à 160 000 francs congolais. 2017-2018, il avait fixé à 100 dollars. Donc, c'est toujours l'équivalent de 100 dollars. Mais ce qui va se passer, janvier, je crois que c'était janvier 2018, il y a des mouvements au niveau de l'UNIKIN, de quelques étudiants. Les ministres montent sur le site. Ils parlent avec les étudiants et il va dire aux étudiants, le 100 dollars là, vous allez le payer au taux, pas au taux du marché qui était à 160, vous allez le payer à 92, au taux des 92. Donc il leur fait une remise. C'est lui qui devait payer 160 000 francs, pour cette année-là, va payer 92 000 francs. La remise a été accordée par le ministre verbalement. Mais l'instruction, je vous dis, j'ai l'instruction ici. L'instruction ne parle pas de ça. L'instruction parle de 100 dollars. Les étudiants ont applaudi. Mais les autres partenaires que je viens de citer, à part la coordination initiative, ils disent, mais nous, comment on va fonctionner? Parce que notre budget a été négocié sur base de 160 000. Vous venez de leur demander de payer 92 000. Qui va payer, qui va prendre en charge la différence? Le ministre dit, le gouvernement va combler. C'est ce qu'on appelle le manque à gagner. Donc, et le gouvernement a appuyé les ministres puisque le gouvernement a commencé à payer ces manques à gagner. Certaines institutions ont reçu une tranche, d'autres deux, d'autres non, non, même, je viens de recevoir là le DG de l'ISTM Bassoko, il m'a dit, il n'a jamais reçu même une tranche. Donc, voilà la situation, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État doit beaucoup d'argent dans le cadre du manque, en termes de millions de dollars. Manque à gagner.
Mais l'État ne pouvait pas continuer à reconduire cette remise cette année.
Exactement. L'État ne pouvant pas. Donc, pour certains étudiants, ils ont considéré que la remise qui a été accordée par le ministre Mbikaï devient perpétuelle. Donc, chaque année, il faudrait presque diviser
continuer par... Continuer à payer 92 000.
Non, 92 000. Mais c'est là aussi, ça s'expliquait. Steve Mbikaï n'a pas pris cette décision comme ça en l'air. Il y avait une explication à l'époque qui n'est plus valable aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, les gouvernements payaient ses fonctionnaires au taux de 92. Alors qu'on demandait aux étudiants de payer au taux du marché. Donc, ils ont dit, comment vous payez nos parents à 92 et vous, vous nous demandez de vous payer, à 160. Donc, voilà la logique. C'est pas possible.
Merci.
Mais depuis le temps, l'État a réglé ces problèmes. Les fonctionnaires sont payés au taux, je viens de vous dire, de 164 000. Il n'y a plus de raison d'accorder cette remise.
Merci. Alors, on va écouter les auditeurs. Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets. Je rappelle encore que vous pouvez le faire au 081-890-4969. Sylvain, vous êtes à Bounia. Merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour mon frère.
On vous écoute.
Avant de commencer, je voudrais saluer le ministre, mais aussi lui demander son numéro de téléphone, puisqu'il y a certaines choses. Je ne voudrais pas dire ici sur la radio, mais je pourrais les recontacter en privé. Je voudrais d'abord avoir son numéro. Merci.
Il n'y a pas de problème.
Oui, on vous écoute Sylvain, oui.
Oui. Est-ce que je peux avoir le numéro du ministre?
Oh non, on ne pourra pas vous l'annoncer sur les antennes.
Monsieur Pierrot vous pourra vous donner ça hors antenne.
Merci.
Je fais confiance, je sais qu'après l'émission, j'aurai le numéro du ministre.
Oui. Maintenant, on vous écoute, Sylvain.
Oui, je dis qu'il y a des explications majeures qu'il faut peut-être donner ici. Nous avons une explication d'ordre économique. Nos universités, telles que le ministre l'a dit, veulent fonctionner en dehors des enjeux économiques qui traversent les pays. Je suis heureux d'apprendre de lui-même que certaines décisions qu'a prises le ministre qui l'a précédé, le ministre Mbikaï, étaient pratiquement des décisions sentimentalisées et des décisions qui ne tenaient pas compte de certaines réalités économiques. Comment voulez-vous que dans nos institutions, on puisse obliger aux étudiants de payer les frais académiques, bien sûr avec une base fixée en dollars? D'abord, c'est une aberration contre notre économie, puisqu'il ne faut pas qu'on continue toujours à accepter cette dollarisation de la vie économique au Congo. Lorsque le ministre fixe le taux à 164 500 000 francs, il faut qu'on soit rassuré effectivement que cela se fera. Deuxième explication, puisque si le frais économique, déjà, il y a un problème, je voulais le dire, je vais partir avec le ministre après. Deuxième chose, lorsque le gouvernement émet un budget, il faut que cela soit réalisé dans toutes les couches possibles. Le ministre qui explique d'ailleurs très correctement ce qui s'est fait. Vous voulez payer les gens à 90 000 francs, vous imposez aux gens de payer à 160 000. C'est un problème. Donc, les gens qui ont géré le ministère de Messie, au moins les deux dernières années ou les trois dernières années, ont pris pratiquement l'université comme un espace politique. C'est comme si tout s'est passé pour des intérêts électoralistes. Et la troisième explication que moi je donne, et ça vraiment je demande au ministre de vérifier ce que j'ai dit, les universités sont devenues des écoles, disons des marchés dans lesquels pratiquement le souci social de l'éducation n'existe plus. Et surtout, il ne faut pas oublier puisque les ministres doivent se rendre compte qu'il y a un distinguo entre le secteur public et le secteur privé dans ces domaines-là. Dans le privé, c'est extrêmement dangereux. Il y a des universités qui n'ont même pas le temps de travailler avec les coordinations étudiantines pour fixer les frais. Et quand bien même on laisse la lassitude à certaines autorités académiques de pouvoir voir comment est-ce qu'il faut fixer les frais, mais attention, il faut tenir compte du coût de vie de la nation sur le plan économique. On ne peut pas fixer un frais, disons les frais académiques, sans tenir compte du coût de vie. C'est là où le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire doit avoir un regard sans complaisance dans son secteur. Je me souviens, il y a un ministre dans ce pays qui a fini ce secteur à cause de certains désordres que nous avons vus. Et je dis que moi-même, je suis l'un des acteurs de ce secteur-là. Je ne voudrais pas dire toutes les vérités ici. C'est comme ça que j'ai sollicité à avoir les numéros du ministre
voilà.
Pour qu'on lui dise certaines choses.
Merci. Mais il y a un élément important, vous l'avez dit, il faut éviter que l'université devienne un marché, mais si aussi le ministère peut avoir un regard sur ce qui se passe au niveau des universités, des institutions privées, la fixation de frais, est-ce qu'on tient compte du coût de vie de la population? Le ministre pourra dire s'il y a un regard sur les frais qui sont fixés dans les enseignements, institutions d'enseignement supérieur privé. Merci beaucoup, Sylvain. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour également à Son Excellence, Monsieur le Ministre.
Donc, vous écoutez,
Je pense que ce sujet est vraiment pertinent parce que moi, lorsque on a porté à la tête Son Excellence dans ce ministère, je me frottais déjà les mains. J'étais très content parce que j'ai eu à le voir lorsqu'il avait les infrastructures. Vous savez, il y a une émission qui est passée. J'ai tout le temps, je l'appréciais dans sa manière de faire les choses. Alors, je me disais que lorsqu'il va être, il va prendre les choses à main dans ce secteur, en tout cas, je pense que les choses pourront bien aller de l'avant. Je pense que le ministre a commencé par prendre les décisions. Je pense qu'il était d'ailleurs salutaire parce que lui-même a eu à être aux antennes et il a publié tout ce qu'il fallait. Alors, il revenait maintenant à ceux-là qui étaient placés pour l'exécution des décisions provenant bien sûr, bien évidemment, du ministre, bien évidemment aussi du ministère. Et alors, je suis en train de voir qu'il y a deux choses. Moi, particulièrement, j'ai eu le temps à passer mes études et à l'Institut supérieur. J'ai passé des années là-bas et même à l'ISC ici à Lubumbashi. Et quand je compare les deux institutions, je me rends compte que les deux institutions, sur le plan frais académiques, ils vont à deux vitesses. Et pourtant, nous sommes dans un même état avec un seul responsable à la tête du ministère et qui doit mettre ses injonctions sur le terrain, et il revient, je pense, à chaque ADG, et voire même toute son équipe, de respecter à la lettre toutes les décisions provenant du ministre. Parce que lorsque on place le chef dans les institutions, il n'est pas dit que parce qu'on doit, on est du même parti, alors on doit bafouer ou fouler au pied toutes les décisions du ministre. Alors, là, j'en appelle maintenant à notre Son Excellence. Il fallait vraiment taper du poing sur la table toutes les institutions qui se conformeront scrupuleusement, bien évidemment, aux décisions du ministre telles qu'étriées. Ils doivent subir la rigueur de la loi. Et
Mais Germain, n'oubliez pas, comme le ministre l'a dit, oui, le ministre le disait tout à l'heure, mais est-ce que l'ISC ou l'ISP n'ont pas les mêmes problèmes pour avoir le frais peut-être harmonisé? Si comme à Kinshasa, l'IFASIC n'a pas les mêmes problèmes, par exemple, avec l'UPEN. Cela veut dire qu'il y a des réalités liées à chaque institution et les frais tiennent compte de ces vrais problèmes qui se posent. Mais quand même, vous voulez qu'il y ait un droit de regard du ministère dans ce qui doit être fait pour fixer les frais. Merci beaucoup. Léon, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. Je suis Léon qui va vous depuis la ville de Kisangani.
On vous écoute.
Bon, merci, M. Pierrot. Le problème, comme vous avez stipulé, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le problème de fait académique. Parce que moi aussi, je suis étudiant ici dans la ville de Kisangani. Le problème, est du taux fixé par le ministre. Parce que si nous voyons, les taux fixés dans les années passées, ce n'est pas les taux qui est fixé aujourd'hui. Dans les années passées, nous devons payer sur les taux de 920, comme a dit le ministre. Mais aujourd'hui, on paye sur les taux de 1670 francs. C'est ce qui fait peu de désordre réparti par là dans les universités de notre pays. Je ne sais pas si, pourquoi ne pas fixer un taux fixe pour que chaque année les étudiants payent ça. Parce que si nous continuons toujours par le même ambiance, on continue toujours avec les désordres passés par là dans notre pays. Je ne sais pas si c'est l'incarnation ou le ministre ne peut pas faire ça, parce que chaque année, il y aura toujours des désordres que les étudiants vont toujours revendiquer le problème des frais académiques. Donc, le ministre pourrait fixer un taux fixe, même si le problème concernant aussi les frais connexes qu'on paye à l'université. Il y a des institutions qui continuent à augmenter les frais qui ne sont pas, et les étudiants ne bénéficient même pas de ça. Et aujourd'hui, on continue à payer ça dans nos universités.
Alors, Léon, précisément, quels frais, par exemple, que vous payez, mais vous ne bénéficiez pas des services?
Il y a le frais comme les frais de l'Internet, il y a aussi le frais de santé, il y a aussi d'autres frais que, même si, durant toute l'année, vous ne passez pas à l'hôpital, mais vous allez payer ces montants-là. Il y a aussi des frais-là qui sont inutiles, on continue à mettre ça. Le problème des cartes. Il y a aussi le problème des cartes que l'on met peut-être une carte, c'est à 5 dollars. Et c'est là qu'on continue à augmenter le prix de frais connexes, c'est là qu'on continue à demander à
l'université. Voilà, merci beaucoup Léon. Vous estimez qu'il y a des frais comme l'Internet, santé, vous ne pouvez pas soigner, vous n'avez pas que ça à l'Internet, mais vous payez les frais, la carte, et on a tendance à gonfler les frais connexes au niveau des institutions. Merci beaucoup. On va terminer avec vous, Olivier, pour revenir à notre invité, il va réagir. Olivier, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Oui, Pierrot, bonjour et bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
On vous écoute.
Oui, Pierrot, je pense que nous le disons toujours, quand on sème le vent, on ne peut que récolter la tempête. Alors, c'est vrai, ce qui est en train de se passer cette année dans les instituts supérieurs et universités, c'est le fruit de ce qui a été fait l'année passée. C'est-à-dire qu'on a voulu faire croire aux gens qu'on pouvait fonctionner sans tenir compte des réalités économiques. Le taux qui n'existait pas de 920 a causé beaucoup de torts dans les esprits des étudiants. Et par comparaison, c'est ça qui a fait que cette année, il y ait tous ces mouvements-là. Ça, c'est une chose. Alors, j'espère que le ministre actuel et tous les autres politiciens éviteront de mettre la politique dans la gestion des universités. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous devons dire que nous avons des difficultés avec certains établissements, effectivement, parce que je crois que c'est le pouvoir public, les ministres qui rendent un peu les choses un peu difficiles. Il y a des nominations aujourd'hui dans les autorités académiques, les comités de gestion de plusieurs universités sont nommés sur base des affinités politiques. Alors, c'est comme ça que ces autorités se permettent des largesses qui n'existent pas, qui ne doivent pas exister. Et donc, je crois que les étudiants, mon prédécesseur venait de parler d'une situation. Donc, l'honnêteté au niveau des chefs d'établissement est à mettre en doute. Et alors, ça c'est un problème qui demande que le ministre soit très vigilant, parce que je crois que moi je vais lui proposer qu'il instaure un système d'audit audit régulier une fois par an ou deux fois par an, parce qu'effectivement, il y a des choses que la décision ne voit pas. Je peux prendre un exemple pour ajouter à ce que l'ami a dit, les ordinateurs. Vous arrivez dans beaucoup d'institutions, il y a des frais pour l'informatique. Mais vous arrivez, il n'y a pas grand-chose. La construction, pendant plusieurs années, on va payer la construction, mais vous arrivez dans les institutions, il n'y a pas de nouveaux bâtiments. Donc ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est que nos enfants, nos étudiants doivent mûrir. Ils doivent mûrir, parce que très souvent, ils réclament sur base des rumeurs. Ils n'analysent pas la situation et ils se mettent à se soulever parce que ils ont des liens, je dis des liens politiques avec celui-ci ou celui-là, et c'est ça le grand problème.
Et d'ailleurs, nous avons eu beaucoup d'émissions, vous rappelez du temps du fait professeur Macha Komamba Peasonam, on a eu beaucoup de débats sur la question de la dépolitisation, n'est-ce pas, du milieu universitaire, on en a beaucoup parlé, et vous estimez que les étudiants doivent mûrir. Mais d'un côté, vous avez évoqué la question des frais connexes, mais qui ne reflètent pas la réalité, on ne construit pas, on n'a pas d'ordinateur, mais on fait payer ces frais-là chaque année. 081-890-4969 pour intervenir en direct.
Spécial dialogue entre Congolais. En direct de Beni, au Nord Kivu. Du lundi 27 au vendredi 31 janvier, à partir de 19h15. Heure de Kinshasa sur Radio Okapi. Toute l'équipe de votre magazine vous propose cette semaine une série d'émissions spéciales sur la situation sécuritaire, politique, économique et sociale, mais également sanitaire, avec un accent sur l'évolution de la maladie à virus Ebola. Dialogue entre Congolais en direct de Beni. C'est l'expression libre au plus près de la population du lundi 27 au vendredi 31 janvier à partir de 20h15. Heure de Beni sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs.
Monsieur le ministre, nous revenons à vous. Vous avez suivi hein, les auditeurs. Je crois qu'en suivant le cours du débat, la question, la compréhension de cette question d'augmentation, je pense qu'elle est en train déjà d'être assez assimilée. Mais il y a quand même certaines particularités qui ont été soulevées. Vous avez noté ensemble avec moi, oui, je vois.
Ok, merci beaucoup. Mais pour finir par la dernière intervention, si vous me permettez, Monsieur Olivier de Kikuiti qui dit que les étudiants doivent mourir. Je voudrais profiter de l'occasion pour donner une petite méthode que vous connaissez parfaitement, qui développe l'esprit critique. Lorsqu'on vous rapporte quelque chose, lorsqu'on vous dit quelque chose, un étudiant, un futur cadre de la République, un intellectuel, pose toujours cinq questions. Cinq questions. Qui a dit qui est, c'est qui a parlé? Deux, il a dit quoi exactement? Il a dit quand? Troisième question. Et c'était où? Quatrième question. Et pourquoi? Lorsque vous retenez ces cinq questions-là, ça va développer votre esprit critique. Vous ne serez plus manipulable. Maintenant, pour répondre aux préoccupations des amis, Monsieur Sylvain Abounia, il a parlé de la dollarisation de notre économie. Vous remarquerez que nous avons pris soin, dans l'instruction 021, notre instruction, de ne pas parler du dollar. Il n'y a aucune mention des dollars dans notre instruction. Tout est en franc congolais, justement pour éviter ces phénomènes. Politisation. Socialisation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le marché, c'est vrai, il est vrai que pour certains promoteurs dans des établissements de l'enseignement supérieur universitaire, l'étudiant est devenu un client à qui on lui vend des parchemins, des diplômes. Donc, on ne s'occupe plus de la qualité de la formation qu'on lui donne, mais c'est un client, lorsqu'il vient, il paye. On lui délivre un document en réalité qui ne représente rien du tout. Ça, c'est inacceptable. Nous allons veiller à ce que ce soit les institutions publiques ou les institutions privées qui délivrent des diplômes, ces diplômes aient réellement du contenu. Monsieur Jérémy, il dit droit de regard sur la gestion. Il a tout à fait raison. Aujourd'hui, nous sommes en train de régler les problèmes des frais académiques avec les étudiants. Mais les gestionnaires des établissements publics et privés doivent savoir qu'il y a une deuxième étape. Une deuxième étape qui va venir, c'est nous allons jeter un regard perçant sur la manière de gérer ces établissements. Parce que nous avons reçu beaucoup de plaintes. Mmh. Et parfois, c'est des plaintes documentées. Tout à l'heure, vous avez retenu que ils payent pour plusieurs services, mais des services inexistants.
Internet, l'informatique, les ordinateurs,
construction,
la santé,
labo, construction, labo, bibliothèque. Il y a des étudiants qui me disent, mais ça fait 3 ans que je n'arrête pas de payer pour la bibliothèque, mais il n'y a pas un seul ouvrage qui a été acheté en 3 ans. Ça, c'est inacceptable. Il faudrait que les gestionnaires nous expliquent qu'est-ce qu'ils font de l'argent qu'ils recrutent pour ces besoins-là. Donc, nous allons veiller, je peux rassurer les étudiants que nous allons veiller vraiment sur la qualité de la gestion des institutions publiques. Et puis, politisation, c'est vrai, certains opérateurs politiques considèrent que l'université est devenue un vivier où on peut aller avec beaucoup de facilité et manipuler des esprits faibles. Je pense que cette affaire doit cesser parce que, comme vous le savez, la loi interdit la pratique d'activités politiques au sein des universités. Mmh. Là, nous allons être très, très regardants.
Mais est-ce que le problème ne peut pas être abordé en amont? Parce que notre ami Olivier a parlé de la nomination des autorités qui est aussi entachée.
Oui, tout à fait.
Même les élections, on a vu à l'université de Kinshasa, entre guillemets, les élections de chefs de département, de chefs de section, de tout ça.
Tout à fait. Il y a de la politisation à outrance, il y a même du tribalisme à outrance, il y a du clientélisme à outrance. violence, ce sont des mots qui gangrènent notre appareil d'enseignement. Donc nous sommes venus pour faire ce que le Premier ministre Ilunga Ilukama nous a dit, le redressement du secteur. Et le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, a dit il faut redresser le secteur de l'enseignement. Donc nous allons nous appliquer pour, dans la mesure de nos moyens, avec le concours de tout le monde, pour essayer de redresser. Parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, aucune institution, aucune université congolaise ne figure parmi les 200 premières universités africaines. Aucune. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Il y a beaucoup de problèmes. Mmh. Si nous voulons avoir l'ambition de retrouver la place que l'Ovanium occupait dans ces classements, il y a des choses que nous devons redresser. Mmh. Il y a des choses que nous devons assainir. Il y a des choses que nous devons changer.
Mmh. Alors, vous avez parlé, avant d'écouter les autres auditeurs, parce que vous avez parlé de l'Ovanium, nous saisissons la balle au bon, parce que le débat est parti de ce qui s'est fait à l'université de Kinshasa. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les cours ont été suspendus. Quelle est la suite?
Oui, peut-être pour les gens qui n'ont pas suivi ce dossier de très près. Je vous ai dit que l'université de Kinshasa, comme les autres institutions, a fixé de manière consensuelle ses frais en interne. Maintenant, les manifestants, les étudiants ont fait cette manifestation. Un groupe de manifestants ont manifesté pour me demander, moi, au ministre, de casser leur accord. C'est-à-dire, les partenaires de l'UNIKIN fixent à 490 000, les étudiants marchent en demandant au ministre, non, on ne peut pas accepter cet accord qui a été obtenu en interne, vous devez casser cela. Je ne pouvais pas casser, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Casser cet accord, ça veut dire que l'État s'engage à supplier. Le manque à gagner, le phénomène du manque à gagner. Le manque à gagner n'est pas prévu dans le budget 2019-2020. Où est-ce qu'on allait trouver cet argent pour pouvoir combler? Deuxième raison, les professeurs, si cet accord est cassé, vont aller en grève parce qu'ils ont droit à leur prime. Ces montants de 490 000 francs leur permet, ils leur accordent des primes sur plusieurs mois. Et troisième raison pourquoi je n'ai pas voulu casser cet accord de l'UNIKIN. C'est parce que justement, les étudiants congolais, futurs cadres de demain, doivent commencer à respecter les engagements. Lorsque vos représentants, en toute liberté, avec votre mandat, parce que ce sont des gens qui ont été élus, arrivent, prennent des engagements, vous devez respecter les engagements. Vous ne pouvez pas être comme le rapport entre un bailleur et son locataire. Ils se mettent d'accord sur les loyers en disant, voilà, ma maison c'est 150 dollars par mois. Les bailleurs signent, les locataires signent, le fils du locataire va voir les bourgmestres et dit il faut venir casser ces bails. Moi je ne suis pas d'accord, mon père a signé à 150, je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas le problème du bourgmestre. Donc on était dans cette situation. Il m'a demandé une chose impossible, venir casser. Troisième raison, pourquoi on n'a pas voulu casser cet accord. Casser l'accord de l'UNIKIN, ça allait autoriser tous les établissements de la République à revenir sur leurs accords. Et vous voyez dans quelle situation on allait se retrouver. Donc voilà pourquoi nous avons été fermés sur cette question avec l'appui du chef de l'État, avec l'appui du Premier ministre. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Les manifestations ont eu lieu, on a suspendu les travaux, mais j'annonce ici que nous avons décidé que les cours à l'université de Kinshasa reprennent le 24 février. Le 24 février, toutes les activités vont reprendre.
Y a-t-il des préalables?
Non, il y a quelques travaux qui se réalisent là où il y a eu beaucoup de casses. Et puis, ça nous permet aussi d'identifier les vrais étudiants, parce qu'il y avait c'était devenu un capharnaüm, l'université de Kinshasa. On ne savait pas qui était qui. Cette période va permettre en tout cas au comité de gestion d'identifier aussi les vrais étudiants de l'UNIKIN par la délivrance des cartes sécurisées. L'opération va commencer très très bientôt.
Mais pas seulement les étudiants, mais aussi ceux qui habitent les homes.
Non, pour le moment, il n'y a plus personne dans les homes.
Je passe par là, il n'y a plus personne.
Ouais, voilà, vous confirmez qu'il n'y a plus personne. Normalement, cette semaine, nous sommes en pourparlers avec le partenaire. Le chef de l'État a donné les instructions claires pour que les travaux commencent le plus tôt possible. Je pense qu'en moins de 10 jours, si tout va bien, les travaux vont commencer à l'université de Kinshasa pour la réhabilitation des homes.
Mais oui, quand on dit identifier les vrais étudiants, il y en a qui viennent de l'extérieur, mais aussi tous ces gens qui habitent les homes, parce que vous l'avez dit vous-même, qu'il y a des gens qui ont déjà terminé, qui sont mais qui habitent, femmes et enfants, qui habitent dans les caves. Et...
Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de familles qui étaient restées là. On a trouvé des cas où quelqu'un a fini ses études depuis 20 ans. Il était toujours dans les hommes. Et vous savez pourquoi il restait là-bas? Il y a deux explications. La première explication, une chambre à l'université de Kinshasa dans les hommes coûte $30 l'année. $30 l'année. Donc un étudiant qui était habitué pendant ses 5 ans d'études à payer $30 toute une année, je ne sais pas ça fait combien par mois, 30 divisé par 12, et on est autour de $2.50 je pense. Donc $2.50 par mois, le monsieur n'a pas envie de quitter. C'est très très confortable hein, lorsque vous payez que $2. Et d'autres au même prix, des sous-locataires, ils commençaient à sous-louer. Donc il est là lui-même, il ne paye pas cher, mais il sous-loue, donc ça lui fait des revenus. Deuxième raison aussi, il y avait des gens, comme vous le savez, on évite à chaque fois de mettre en contact la police et les étudiants. Donc la police nationale n'avait plus l'habitude d'aller dans les homes. Ils évitaient d'aller là-bas. Alors, par conséquent, c'était devenu un sanctuaire. Un sanctuaire des gens de toute mentalité qui allaient se cacher là-bas. Vous savez, par exemple, la dame, la gestionnaire du marché de Kinshasa qui avait été assassinée il y a quelques années, son assassin avait été retrouvé dans les hommes. Il habitait des hommes de l'Unikin. Donc voilà, cette évacuation va nous permettre maintenant, après les travaux...
Qui en réalité doit habiter.
Exactement.
Voilà. Pépé, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Et bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à son excellence, monsieur le ministre.
On vous écoute, Pépé.
Alors, excellence, je vous ai bien entendu, parce que du côté du gouvernement, vous êtes limité à $100. Je pense que ça, c'est déjà très, très bien. Alors, c'est le budget connexe qui crée maintenant des problèmes. Alors, je voudrais avoir un peu de précision, excellence, monsieur le ministre. Si du côté de l'EPST, les parents, avec l'avènement du président Tshisekedi, les parents respirent un peu. Vous pouvez aujourd'hui confirmer aux parents qui ont des enfants à l'université que par rapport à ce que vous êtes en train d'appuyer, pourquoi? Parce qu'il est impossible actuellement de casser cet accord. Pensez-vous que les parents vont respirer par rapport à l'application de cet accord? Parce que nous voulons un peu les changements. Et au-delà de ça, je voudrais revenir sur le dossier des étudiants qui n'ont pas de famille à Kinshasa. Alors, où en sommes-nous avec leur dossier? Et enfin, c'est par rapport à l'université de Kisangani. Il y a la réhabilitation des hommes ici à l'université de Kisangani. Et c'est comme si les travaux traînent. Ça traîne comment alors que le chef de l'État avait dit il y a déjà des moyens, on ne connaît pas où en sommes-nous.
Merci beaucoup, Pépé. Vous vous êtes demandé si, hein, avec cet accord, les étudiants, les parents vont respirer comme on le voit avec l'école primaire. Merci. Simon, vous êtes à Matadi, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Simon Siloulo, Société Civile. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs qui nous suivent de partout, et puis bonjour à son excellence, monsieur le ministre de l'Enseignement universitaire, qui nous a fait honneur d'être là aujourd'hui, parce que souvent, ça n'arrive pas tous les jours que nous ayons un ministre aux paroles aux auditeurs. En fait, je commence par féliciter la décision des ministres. Il a pris une décision courageuse de fermer d'abord, de commencer par fermer toutes les facultés de médecine qui sont dans les universités ou institutions supérieures qui n'ont pas des
non, mais Simon, si vous vous rappelez, c'est annoncé dans l'instruction académique qu'on va fermer. Nous allons revenir d'ailleurs dans un débat sur les conditions d'études pour évoquer exactement cette question pour savoir s'il y a déjà les facultés de médecine qui ont été fermées.
Oui, ok, merci déjà. Mais pour les problèmes de frais, parce que c'est là où les problèmes, vous voyez même, ça commence à irriguer vers d'autres institutions supérieures et les mêmes causes. Et lorsque l'UNIKIN a lancé, on devrait déjà prendre des mesures sérieuses pour que cela ne puisse pas irriguer d'autres institutions supérieures et universitaires. Mais nous commençons à sentir que de plus en plus, ça progresse. Et les problèmes que je voudrais bien dire ici, les frais académiques et les frais connexes. J'aimerais que le ministère aujourd'hui, dirigé par un ministre, Thomas Louaka,
qu'il fasse une autopsie réelle sur les frais connexes. C'est quoi ces frais connexes? Leur finalité servait à quoi? Est-ce qu'avec les frais connexes, comment lui, ministre qui est là, se sent-il lorsque les salaires ou les traitements des professeurs qui devraient venir de l'employeur doivent être suppliés ou on doit ajouter un manque à gagner des salaires d'un enseignant de l'enseignement supérieur par un parent pauvre, peut-être sous emploi, sans emploi, mal payé. Comment se sent-il lorsque le salaire que lui devrait donner à un professeur et il fallait que l'étudiant complète le manque à gagner par les frais connexes? Est-ce que le salaire d'un enseignant revient-il à la charge d'un étudiant? C'est là où nous devons partir. Même si cette année, il ne pouvait pas le faire, mais les années qui suivent, il doit vraiment définir ce qu'il fallait, parce que c'est une honte qu'un étudiant paye un professeur aujourd'hui avec ses manques à gagner.
Voilà, merci beaucoup Simon. Vous avez souhaité d'ailleurs comme Olivier aussi qu'il y ait un audit par rapport à cette question de frais connexes pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe, mais aussi est-ce que les ministres se sentent à l'aise parce qu'il y a les parents qui suppléent sur les traitements de professeurs. Pierre, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot, je vous appelle depuis Kinshasa, je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi. Et je dis aussi bonjour à son Excellence, Monsieur le Ministre. J'ai deux préoccupations. C'est d'abord une question. Est-ce que aujourd'hui le ministre peut nous dire au moins les motivations qui avaient poussé à son prédécesseur de prendre une décision qui est en train de nous rendre victimes aujourd'hui? Quelles sont ces raisons-là et pourquoi il en avait pris à cette époque-là? Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir maintenant. Nous, moi, je suis étudiant à l'Université de Kinshasa. Et quand je suis en train d'entendre, quand j'ai vu tout ce qui s'est passé, je me suis dit, mais comment et par où ça a commencé? Mais enfin, je comprends que c'est la décision, la seule décision du ministre de les suivre, donc son prédécesseur qui avait pris une décision et qui nous a amené dans cette situation. C'est pour moi une manière de politiser
le ministre a essayé d'expliquer les raisons qui avaient poussé à son prédécesseur de prendre la décision. La motivation, ça a été évoqué, mais je crois peut-être que le malentendu a été levé, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de rencontres entre le ministre et les différents comités d'étudiants. On revient à vous, monsieur Thomas Louaka, pour réagir un peu à ce que venaient de dire nos amis. Mais on va ouvrir une brèche sur les décisions, par exemple comme les facultés de médecine, pour un débat sur la question de fonctionnement dans les universités, pour réagir un peu à ce qui venait d'être dit.
Ok, merci beaucoup. Monsieur Pépé, il demande, est-ce que avec la gratuité qu'on a accordée à l'enseignement primaire, il n'y a pas moyen justement qu'on permette aussi aux parents
de souffler un peu, de
respirer un peu. Il a tout à fait raison, parce que les deux problèmes sont liés. Les deux problèmes sont liés, pourquoi? Lorsque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, prend la décision d'appliquer une disposition constitutionnelle sur la gratuité, les gens doivent savoir que ça a un coût. C'est quoi concrètement? Tout ce que le parent payait pour leurs enfants à l'école primaire, l'État dit arrêtez, moi je prends ça en charge. C'est énorme, c'est en termes de millions de dollars. Donc l'État concentre son effort pour s'occuper de nos jeunes, de nos enfants, de nos petits frères qui sont à l'école primaire, en y consacrant de millions. En même temps, étant donné que notre budget est limité, l'État ne peut pas fournir un autre effort pour s'occuper des grands frères, peut-être même des parents, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui ont déjà des enfants qui sont à l'école primaire. Donc, je m'occupe des enfants en rendant l'école primaire gratuite, je ne peux pas en même temps fournir le même effort pour pouvoir rendre l'enseignement supérieur gratuit. Ce que l'un des étudiants, certains, était en train de sous-tendre dans les revendications. D'autres pensaient qu'on pouvait aller jusqu'à la gratuité. Non. Celui qui voudrait, et là c'est un message que je lance peut-être à certains animateurs du parti politique dont est issu les chefs de l'État qui ne comprennent pas, lorsque vous soutenez qu'on puisse accorder un effort financier à l'enseignement supérieur en ce moment, vous hypothéquez la réforme du chef de l'État sur la gratuité. Parce que l'État ne peut pas à la fois donner des moyens à l'enseignement primaire. L'impact est plus important. Les élèves à l'école primaire sont autour de 5 millions. Hein? 5 millions. Les étudiants en République démocratique du Congo sont autour de 400 à 500 000 personnes. Donc je pense que le chef de l'État a raison de consacrer son effort sur le plus grand nombre sans délaisser l'enseignement supérieur. Mm-hmm. Juste pour expliquer que nous sommes conscients qu'il y a des difficultés, mais n'hypothéquons pas la gratuité de l'enseignement primaire en occasionnant d'autres dépenses dans d'autres secteurs. Mm-hmm.
Mais parce qu'il a parlé de la réhabilitation de hommes de l'université de Kisangani, c'est aussi le matin où on nous a parlé des travailleurs de l'intendance qui auraient adressé un mémo au ministre souhaitant qu'ils soient rattachés à l'université parce qu'exactement ils ne parviennent pas à travailler comme il faut à cause de ces différentes personnes qui sont nommées pour les gérer.
Tout à fait. Nous allons examiner toutes les revendications. Vous savez, ça arrive tous les jours. Mm-hmm. Nous allons examiner les revendications qui sont fondées. Et d'ailleurs, c'est une parenthèse. Pour pouvoir avoir une vue globale de ce qui se passe dans l'enseignement supérieur universitaire, nous avons, sur instruction du chef de l'État, nous allons convoquer les états généraux de l'enseignement primaire et secondaire, où tous les gens, tous les intervenants dans ces secteurs, nous allons nous mettre autour d'une table et dire qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les problèmes et quelles sont les pistes de solution. Mmh. Il a parlé aussi des étudiants qui sont venus de l'intérieur, qui ont été déguerpis des hommes. J'ai déjà répondu à cette question en disant que le ministre de l'Action humanitaire aujourd'hui a reçu des instructions de la part du Premier ministre pour trouver une solution humanitaire à ces cas-là.
Mais les autres sont revenus presque sur la même chose. Hein, et Simon a beaucoup insisté sur...
Les salaires. Non, voici la vérité. Les enseignants dans l'enseignement supérieur et universitaire sont tous payés par l'État congolais. Les professeurs d'université sont payés. Les étudiants, en ce qui, les frais connexes là, mm-hmm. permettent d'accorder une prime. Vous n'avez jamais entendu que des enseignants de l'UPN, des enseignants de l'université de Kisangani ont fait grève parce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. Tous sont payés à la fin du mois, l'État honore ses engagements, il paye tous ses fonctionnaires. On peut lancer un débat maintenant sur le montant du salaire, mais les salaires payés régulièrement. Ce qui est donné par les institutions, c'est une prime locale. Hein. Il ne faut pas confondre les deux. L'État paye ses enseignants, mais c'est le prime local que l'institution donne et c'est une pratique que nous avons trouvée.
Alors, Simon parlait de l'effet contagion. Vous avez parlé de ce qui s'est passé à l'ISC. C'est pas vraiment une manifestation. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut être sûr qu'il y a assez de compréhension à travers le pays dans les institutions pour éviter que demain les gens s'élèvent encore?
Non, justement, c'est là que je tiens aussi, profite de l'occasion pour vous remercier de cette opportunité que vous m'avez donnée pour éclairer l'opinion sur ce qui se passe. En réalité, il y a eu beaucoup de malentendus. Mm-hmm. En réalité, il y a eu beaucoup de manipulations. Je vous donne un autre exemple. Celui qui est à Calémie, lorsqu'il apprend que cette semaine, il y a eu du désordre à l'ISTA, il va se dire, c'est lié aux frais. Alors que ça n'a rien à voir, ce qui s'est passé à l'ISTA, 12 étudiants indisciplinés ont été renvoyés de l'institut par le comité de gestion. Ces 12 personnes sont allées rameuter leurs amis à la cité et sont venues faire du désordre pour qu'on les réintègre de force au niveau de l'institution. Voilà ce qui s'est passé à l'ISTA. Mais celui qui est loin, il va prendre que c'est les désordres ou les frais.
Liés aux frais, voilà.
Non, ça n'a rien à voir. Alors, il y a d'autres problèmes que nous sommes en train de gérer.
On va écouter les derniers auditeurs rapidement. Étienne qui est à Kikwit. Étienne, en quelques mots, bonjour.
Bonjour, mon frère Pierrot.
On vous écoute rapidement, oui.
Ok. Je voulais, compte tenu de la délicatesse de cette question, nous avons voulu profiter de cette opportunité de la présence du ministre de l'ESU. Solliciter auprès de lui un rendez-vous qui va nous permettre, nous, en tant que chercheurs dans le domaine de la vulgarisation des notions de la non-violence active, pour qu'ensemble, avec l'État congolais, nous puissions un peu vulgariser ces notions dans toutes les institutions universitaires. Parce qu'il est bon de manifester, mais quand nous l'avons suivi, lorsqu'il a ici fait preuve de 5 questions-là, il est très important pour ceux qui veulent manifester de mener des enquêtes minutieuses pour connaître la vraie information et comment s'y prendre dans des manifestations sans pour autant recourir à la violence. Et cela est de mise même dans les milieux des partis politiques qui très souvent ne savent pas comment manifester dans la non-violence. Et nous avons voulu profiter de sa présence parce que c'est une question éminemment importante pour que l'État, cette fois-ci, puisse subventionner des organisations non gouvernementales comme les nôtres qui s'attellent sur cet aspect des choses. Même nous qui l'avons toujours suivi sur une page de mémoire de notre histoire lorsqu'il intervient très souvent sur l'histoire du Congo et très souvent dans les milieux universitaires, cette histoire n'est pas bien vulgarisée. Voilà pourquoi nous avons voulu.
Voilà, merci beaucoup. Hein. Il est bien identifié pour, avec ces concepts. Je connais le Congo. Merci beaucoup. Et c'est quand même assez intéressant d'avoir des séances d'éducation civique dans les universités pour que les gens comprennent c'est quoi exactement la manifestation pour éviter ce que nous avons assisté à l'université de Kinshasa. On revient à vous, monsieur le ministre, pour conclure cet échange. On a suivi les uns et les autres. Mais si vous permettrez, on viendra sur un débat très intéressant sur l'organisation, n'est-ce pas, au sein des universités, ainsi qu'au sein de la faculté de médecine, parce que nous avons reçu beaucoup de messages par rapport à cette question. On pourra y revenir si vous avez le temps. Alors, on peut conclure cet échange d'aujourd'hui.
En tout cas, merci. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir donner toutes les informations qui étaient à notre disposition. Et nous sommes là pour changer les choses au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. Changer les choses concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre les étudiants dans des conditions dignes de pouvoir étudier. Vous savez qu'aujourd'hui, on a par exemple les problèmes d'amphithéâtre. Beaucoup d'amphithéâtres sont bondés, on ne peut pas bien étudier dans ces conditions. Donc, on est en train de voir comment construire de nouveaux bâtiments pour pouvoir permettre à nos étudiants de travailler dans de bonnes conditions. Les bibliothèques, l'Internet, il y a des très bonnes choses que nous sommes en train de voir pour l'étudiant. Mais cela demande un sens de responsabilité de leur part. Nous n'avons aucune intention de nuire à l'étudiant congolais parce que moi-même, je suis un ancien étudiant congolais. J'ai étudié à l'ISTA. On appelait ça l'ISTA Gombe à l'époque. L'ISTA Gombe et l'ISTA Ndolo. Donc, je suis un ancien étudiant. Je connais les conditions. Je connais les difficultés. Mais nous essayons, avec le peu de moyens que nous avons, de changer les choses. Changer les choses pour l'étudiant. Changer les choses pour les enseignants, changer les choses pour les personnels administratifs, c'est lorsqu'on change les choses, même les programmes, nous allons revoir si les programmes sont encore adaptés à la situation de notre pays aujourd'hui. Donc c'est en changeant ces trois choses, un, ce qui concerne l'étudiant, ce qui concerne l'enseignant, ce qui concerne le personnel, en ce qui concerne les programmes, c'est comme ça que nous pouvons retrouver notre place qu'on occupait il y a quelques années, quelques décennies, dans les classements africains, les classements africains de meilleures universités.
Merci beaucoup Thomas Louaka. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Merci à vous tous. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Allô? Mais, ils ne répondent pas?
Merci à Jean-Claude Ntiala qui est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalamba et Pierrot Elamiji. Je vous l'ai présenté. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Paroles aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. Merci de votre sympathique attention. Au revoir.